Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Vos questions, vos réactions sur franceinter.com.
Bonsoir. Tous les 5 ans, les Français sont appelés à élire leurs députés. Le prochain scrutin à deux tours se tiendra théoriquement en juin 2012, juste après la présidentielle. Ceux que nous envoyons siéger à l'Assemblée nationale ont pour mission de légiférer. La tâche est sérieuse. Leur comportement l'est-il ? On peut en douter à la lecture de l'étude publiée cette semaine à l'initiative du collectif Regard Citoyen. On y relève que si les élus de la nation fréquentent avec assiduité les séances des questions d'actualité qui sont télévisées, ils sèchent plus volontiers les travaux en commission, beaucoup moins médiatisés. Faut-il en conclure que nos députés se moquent de nous en prenant ainsi le risque d'encourager l'antiparlementarisme et l'abstention ? Eh bien justement, non. Il faut se garder de simplifier. C'est ce que nous allons voir. Mais alors, qu'est-ce qui ne tourne pas rond au Palais Bourbon ? Nos invités ce soir pour en parler, Jean-Luc Warsmann, député UMP des Ardennes, il préside la commission des lois de l'Assemblée. Frédéric Dumoulin, journaliste, chef du bureau de l'agence France Presse à l'Assemblée nationale. Et Benjamin Hogue-Tabanou, cofondateur du collectif Regard Citoyen, qui vient de publier une étude sur la présence et l'absence des députés durant la session écoulée.
01 45 24 7000.
Une première question, Edmond est en ligne. Edmond, bonsoir.
Bonjour messieurs, dames. Voilà, je vous téléphone parce que j'habite à Montpellier et j'ai vu sur le journal de Midi Libre où il y avait l'abstentionniste, surtout Marc Agnew, en fait je pense que c'était celui qui était le plus absent. Alors j'avais posé la question, comment faire des réglementations pour l'abstentionnisme des élèves dans les écoles alors que nos propres députés sont les premiers à être absents dans l'hémicycle?
Alors, la question d'Edmond, qui nous a appelé dans le Croussillon, qui veut y répondre ? Jean-Luc Warsmann, peut-être ?
Oh, je crois qu'il ne faut pas généraliser. Je crois que les députés sont présents et la plupart des députés travaillent beaucoup. Vous savez, en un an, à l'Assemblée nationale, il y a près de 1000 heures d'hémicycle. 1000 heures où l'hémicycle tourne et vote des lois. En plus des 1000 heures d'hémicycle, il y a toutes les réunions des commissions. Parce que chaque fois que vous avez un texte qui est présenté, et on vote en un an à peu près 50 lois à l'Assemblée nationale, chaque fois qu'un texte est présenté, il est étudié par une commission. En plus des 1000 heures d'hémicycle. Donc tout ça représente un travail très important et l'étude qui est parue il y a quelques jours, j'imagine, qui fait réagir notre auditeur, c'est une étude qui comptabilisait les absences aux réunions de commission le mercredi matin. Alors ça n'est qu'un des aspects du travail parlementaire. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je dis pas. Pour peser dans le travail parlementaire, il faut déjà y participer.
Ouais, vous êtes présenté, à l'instant, Edmond parlait d'élèves et parlait d'école. Vous êtes présenté comme l'un des bons élèves dans la presse de l'Assemblée nationale parce que vous, on vous voit à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que vous, qui êtes député des Ardennes, donc finalement assez loin de Paris, pourquoi est-ce qu'on vous voit plus que des élus qui sont plus près ?
Alors d'abord, ne faites pas la contre-pub à mon département. Les Ardennes, c'est un peu plus de 2 heures de Paris, donc on n'est pas loin de Paris. Premier point. Deuxième point, je pense que la situation est très variable. Il y a des députés qui sont très impliqués dans le travail parlementaire. Être impliqué, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand une loi va arriver, vous allez participer à des auditions. Vous allez écouter l'avis des personnes, organisations professionnelles, syndicales, sur la loi. Vous allez ensuite écrire des amendements pour modifier la loi, que le projet de loi que propose le gouvernement dans un sens ou dans un autre. Et puis après, vous allez les défendre, vous allez argumenter. Donc quand vous êtes impliqué dans le débat parlementaire, c'est passionnant. Peut-être que dans certains cas, certains collègues sont beaucoup moins impliqués. Alors quand vous êtes moins impliqué et que vous êtes là pour lever la main avec votre sensibilité politique, ça devient peut-être un peu moins intéressant.
Ouais, vous précisez que les Ardennes sont à 2 heures de Paris, les Hauts-de-Seine c'est tout près de Paris, mais on est peut-être tenté quand on est élu d'un département proche de Paris, justement de rentrer à la maison. Le matin, lorsqu'il y a un travail en commission, c'est bien possible. Benjamin Hogue-Tabanou, donc vous êtes le cofondateur du collectif Regard Citoyen, qui a fait un petit peu de bruit cette semaine en publiant cette étude, et vous insistez bien sur le terme étude, ça n'est pas un classement, parce qu'on a présenté ça à tort, selon vous, comme un classement des députés, comme si vous vouliez vous dénoncer et présenter une liste des bons et des mauvais élèves. Ça n'est pas tout à fait votre objectif.
Oui, tout à fait. L'objectif de Regard Citoyen, c'est avant tout de valoriser l'activité parlementaire en réutilisant les informations qui sont publiquement accessibles pour les rendre plus accessibles aux citoyens et plus compréhensibles. C'est dans cette optique qu'on avait créé, lors de notre création en septembre 2009, le site nosdéputés.fr qui reprend l'intégralité de tout ce que M. Warsmann vient d'évoquer, que ce soit les propositions de loi, les rapports, rapports, les amendements, les interventions des députés en commission, en hémicycle, et pour les rendre accessibles aux citoyens facilement et qu'ils puissent se faire une idée justement du travail de nos députés. Et peut-être rétablir le lien entre l'un et l'autre avec la possibilité d'aller commenter sur le fond de ses interventions et son travail.
Vous n'êtes l'émanation d'aucune formation politique ?
Absolument pas. On est transpartisans, on se revendique transpartisans, c'est-à-dire qu'on a, moi je suis personnellement plutôt de gauche, j'ai des amis dans l'association qui sont plutôt de droite. On est complètement réparti et on estime justement qu'on ne peut pas prendre de position politique si on veut pouvoir mener ce travail de transparence des institutions démocratiques de façon tout à fait correcte.
Après ce qui a été publié cette semaine et ensuite nous entendrons Frédéric Dumoulin, on attend peut-être ce que vous allez publier sur les sénateurs. Les sénateurs doivent commencer à trembler en disant que Regards Citoyens s'apprête à sortir une étude du même type le mois prochain, en septembre.
Alors effectivement, on ne va pas sortir une étude du même type en septembre prochain. Par contre, on va effectivement proposer à partir de la rentrée l'équivalent de nosdéputés.fr pour le Sénat. On essaie de sortir ça pour avant les élections sénatoriales. Cependant, on est tous bénévoles, on fait tout ça en marge de nos travaux respectifs et donc on espère qu'on aura le temps de finir ça dans l'été.
Frédéric Dumoulin, vous êtes journaliste, vous travaillez à l'Agence France Presse. L'Agence France Presse qui a un bureau à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire
oui, on est plusieurs, on est une équipe de 4 personnes.
Je ne suis pas sûr que les gens le sachent très bien, mais évidemment pour être informé de ce qui se passe à l'Assemblée.
Et justement, nous comme les députés, on suit non seulement les travaux en commission, mais aussi les travaux dans l'hémicycle, ce qui se passe également dans les couloirs, etc. Donc le travail en fait de parlementaire est très multiple. Il ne se limite pas à la présence le mercredi ou non en commission. Et puis aussi, comme disait votre auditeur tout à l'heure, en fait, ils ne sont jamais dans l'hémicycle, etc. C'est un petit peu facile parce qu'il y a aussi certains citoyens qui reprochent justement à leurs députés d'être trop souvent à Paris et de négliger un peu leur circonscription. Donc on peut prendre ça aussi de tous les côtés.
Vous passez plus de temps à l'Assemblée nationale que les députés, vous en tant que journaliste ?
Non, je ne me permettrai pas de dire ça, non. Mais c'est vrai que nous aussi, on fait des débats de nuit, etc. Donc on y est très souvent.
Oui, parce qu'on débat le jour, on débat la nuit à l'Assemblée nationale.
Exactement.
Jean-Luc Warsmann, vous évoquiez le nombre de lois qui étaient examinés ou votés chaque année. Il y a un trop-plein de lois quand même dans ce pays. À chaque fois, ça fait des années qu'on déplore l'abondance de lois. On parle d'inflation législative, de lois mal ficelées quand les projets arrivent sur vos bureaux, de textes qui ne sont pas appliqués. En tout cas, on attend, les décrets d'application se font attendre. Il y a quand même une forme de dysfonctionnement, non, dans nos institutions?
Alors, on essaie de remédier à tous ces dysfonctionnements. Le premier point, c'est le problème de l'application des lois. Il n'y a rien qui exaspère plus un député que de lui expliquer qu'il faut voter en urgence une loi et ensuite de voir les décrets d'application qui ne sortent pas. Alors, quelle est la réalité ?
Dans quelle proportion à peu près ?
Alors, j'ai amené le chiffre ce soir. Depuis les dernières élections législatives 2007, toutes les lois qu'on a votées nécessitaient 2136 décrets. Il y en a 1600 qui étaient sortis au 30 juin. Donc, il y en a les trois quarts de sortie. Il y en a un quart qui ne sont toujours pas sorti. Alors ça exaspère tout le monde. Je peux même vous dire que ça a mis en colère le Premier ministre. François Fillon s'est mis en colère au début 2008 sur le sujet et donc a donné des ordres assez secs à tous les ministères pour essayer de remettre de l'ordre. C'est moins pire que ça n'était. Ça n'est pas encore satisfaisant.
Et autant de lois dans un pays, est-ce que ça ne veut pas dire que son peuple, le peuple de ce pays, est un peuple d'irresponsables ou en tout cas considéré comme tel ?
Non, ça veut dire qu'on nous demande souvent à la loi de venir régler beaucoup de problèmes et que dans un certain nombre de matières, ça n'est pas la loi qui règle tous les problèmes. Chacun le sait bien. Mais il y a toujours le risque, on appelle ça la loi du journal télévisé de 20h, parce qu'il se passe un fait divers,
un événement.
Et on veut parfois faire croire à l'opinion que parce qu'on fait voter immédiatement une loi aux parlementaires, eh bien d'un coup de baguette magique, le problème va être résolu. Alors parfois, nous-mêmes, on le vit assez mal parce qu'on connaît assez bien les problèmes et on sait très bien que ce n'est pas par une simple loi qu'on va le résoudre. Alors, qu'est-ce qui va évoluer depuis 2008, depuis la révision de la Constitution ? D'abord, on a réduit le temps que l'on passe à voter des lois. Désormais, sur 4 semaines de débat à l'Assemblée nationale, une semaine est passée au contrôle de l'application des lois. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? D'abord parce qu'on voulait restreindre un peu le temps passé au vote de loi en disant comme ça on nous en fera voter un peu moins puisqu'on y met un peu moins de temps. Et puis deuxième point, moi je suis persuadé que l'avenir du rôle d'un parlementaire dans un pays comme la France, c'est de passer son temps, plus de temps et plus d'énergie à contrôler la manière dont l'argent public est dépensé et la manière dont les lois s'y appliquent. Donc l'avenir, c'est moins de lois et plus de contrôle de l'application et l'évolution, on n'a fait que les premiers pas pour l'instant.
Frédéric Dumoulin.
Oui, mais justement, M. Warsmann insistait sur le travail en commission, etc. Mais en fait, la révision constitutionnelle de 2008, certes, a donné plus de pouvoir, plus d'importance au travail en commission, mais justement, est-ce que le pendant de ça, ça devrait être que les travaux en commission soient publics, ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les commissions.
Alors, première étape, toutes les auditions sont publiques depuis cette législature, ça n'était pas le cas auparavant. Deuxième étape, les comptes rendus ont complètement changé. Auparavant, quand un citoyen voulait consulter le compte rendu d'une commission, il savait, par exemple, ouvrez guillemets, qu'un débat a eu lieu sur telle question, fermez guillemets. Aujourd'hui, c'est nominativement monsieur le député untel a dit telle chose. Et donc le citoyen qui veut suivre non seulement la présence de son député, mais la participation, les arguments qu'il a défendus, ils peuvent le défendre. Donc oui, en termes de transparence, oui, on a fait un pas en avant.
Comment vous expliquez que certaines commissions retransmettent par exemple à la télévision les débats et pas d'autres
comme... Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de retransmission des débats et parce que dans certaines commissions, il y a une appréhension d'avoir un côté théâtral de certaines interventions un peu théâtrales. Oui. Oui, et jusqu'aujourd'hui, les commissions ne sont pas le lieu pour la plupart d'interventions théâtrales. C'est vraiment des lieux de débat technique. Et il y a des votes, ça peut surprendre des auditeurs qui nous écoutent, mais il y a des votes qui ne sont pas politiques. Un député d'opposition qui argumente peut retourner très bien la commission et peut faire battre à une proposition du gouvernement parce que les députés membres d'une commission sont des députés qui sont relativement bons connaisseurs des sujets traités par la commission et il y a un certain nombre d'évidences qui apparaissent. De la même manière, lorsque nous faisons des auditions, depuis le début de cette législature, toutes les auditions sont ouvertes à la majorité, à l'opposition, en pure transparence. Et quand vous avez le gouvernement qui nous propose une disposition et que toutes les auditions contestent la disposition, eh bien il arrive au gouvernement de se faire battre, y compris par sa majorité.
Nous prenons la question de Pierre dans l'Isère. Pierre, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, alors ma question c'est est-ce que finalement le responsable n'est pas la constitution de la Ve République dans la mesure où, on le voit d'ailleurs au moment des campagnes, hein, les candidats disent je ferai ceci, je ferai cela. Et donc, surtout depuis qu'on a le quinquennat et l'inversion du calendrier dont Jospin est responsable, on a en fait l'élection présidentielle qui mobilise tout le monde, qui focalise d'ailleurs tous les votes alors que on a une abstention terrible sur les autres suffrages. Et à partir de là, donc, on élit une Chambre des députés qui se divise entre une majorité présidentielle qui est systématiquement pour les propositions du président. Il n'y a pratiquement pas de loi qui soit à l'initiative des députés. C'est toujours le président qui propose les lois par l'intermédiaire plus ou moins du gouvernement qui est lui-même un peu fantoche et une opposition qui est systématiquement contre. Donc dans ces conditions, est-ce que la présence des députés a vraiment un intérêt ?
Alors, qui veut répondre ? Vous disiez à l'instant, Frédéric Dumoulin, c'est faux, je vous entends dire ça.
On ne peut pas dire que les lois soient uniquement à l'initiative du gouvernement, et de l'exécutif. C'est aussi à l'initiative, il y a les projets de loi qui sont à l'initiative du gouvernement, il y a les propositions de loi qui sont à l'initiative des députés. Bon, on sait bien, en réalité, bon, il est vrai que dans de nombreux cas, les propositions de loi doivent avoir l'aval de l'exécutif.
Et est-ce qu'il ne donne pas ce qui donne cette impression, ça n'est pas justement l'empressement de l'exécutif, alors que le législatif a besoin d'un peu de calme pour légiférer et d'un peu de temps, non ? C'est pas ça, une sorte... Le temps n'est pas le même entre l'exécutif et le législatif, Jean-Luc Warsmann.
Alors, plusieurs remarques. D'abord, quelle est la proportion de lois proposées par les députés ? Deux chiffres, 2009-2010, 57 lois votées par le Parlement, 22 étaient l'initiative des parlementaires. Deuxième chiffre, durant la dernière année, il y a eu à l'Assemblée nationale 2300 amendements qui ont été adoptés. Sur ces 2300, 1300 venaient de députés. C'est-à-dire que les députés ont modifié à 1300 reprises les projets de loi qui étaient proposés par le gouvernement. Donc les députés peuvent peser et peuvent modifier. Les députés peuvent repousser des pans entiers de loi. Troisième point, vous parliez du temps. Mais si, évidemment, il faut un peu de temps pour voter une loi. Pourquoi faut du temps ? Parce que quand le gouvernement nous propose un projet de loi, qu'est-ce qu'on fait ? Un, on désigne un député, qui est le rapporteur, qui va faire tout un travail d'audition. Et la tradition républicaine, c'est que toutes les organisations professionnelles, tous les spécialistes qui connaissent le domaine de la nouvelle loi vont être entendus à l'Assemblée. Et tous les députés majorité-opposition de la Commission sont invités à ces auditions. Ensuite, il y a le travail en Commission. Ensuite, il y a le travail à l'hémicycle. Ensuite, une fois que l'Assemblée ou la première Assemblée saisie a fini, ça va à la seconde Assemblée. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a tout ce travail ? Eh bien, l'objectif, c'est que toutes les organisations professionnelles ou les spécialistes de matière peuvent venir tirer la sonnette d'alarme si le projet du gouvernement n'est pas bon, peuvent venir attirer l'attention sur des manques, sur sur des vides. De plus en plus, depuis 3 ans, on fait du comparatif par rapport aux autres pays européens. Si en France, on a une difficulté et s'il faut voter une loi, il y a toutes les chances que les démocraties voisines aient la même difficulté. Et donc, chaque fois qu'on étudie une nouvelle loi, on regarde ce qu'ont fait les pays voisins. Pour, si ça fonctionne bien, s'en inspirer. Si ça fonctionne mal, surtout ne pas s'inspirer. Donc, tout ça, il faut un peu de temps. Je ne suis pas pour que les problèmes soient enterrés, loin s'en faut, mais il faut laisser un peu de temps pour qu'on ait le temps d'approfondir et qu'on ne vote pas des lois sous un coup de tête.
Oui, Benjamin Hogg.
Oui, ce que les données montrent, effectivement, quand on regarde tout ce qui est fourni à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a effectivement un gros travail de la part des députés et qu'il y a effectivement une participation très importante des députés, que ce soit au travail de contrôle du gouvernement ou au travail d'écriture de la loi. Ce sera d'ailleurs l'objet d'une étude qu'on va mener avec Sciences Politiques très prochainement, sur 3 ans, d'essayer de visualiser et de représenter de façon globale dans quelle mesure les députés et le Parlement en général modifient le texte de loi qui est proposé par le gouvernement.
Il y a probablement des députés qui viennent à l'Assemblée mais qui n'y font pas grand-chose et des députés qui n'y viennent pas très souvent, qui ne sont pas très assidus, mais qui travaillent quand ils sont là, non ?
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui ressort de notre étude, c'est qu'il y a des députés qui sont très très actifs et qui font partie de la liste des sanctionnés, alors que des députés qui sont plutôt peu actifs ne sont pas sanctionnés. C'est justement pour cela qu'on dénonce cette appellation de classement de l'absentéisme. L'objet de notre étude était effectivement de faire une évaluation de l'application effective du règlement de l'Assemblée nationale. C'est un règlement qui a été voté par la majorité de l'Assemblée en 2009 et il paraît normal que l'Assemblée nationale fasse la transparence sur son application.
Frédéric Dumoulin.
Et puis c'est vrai qu'il y a des députés aussi qui se spécialisent particulièrement sur certains sujets qui sont très, très pointus, certains sujets qui connaissent très bien leur sujet et qui bossent énormément là-dessus. Donc on ne peut pas, et c'est sûr qu'ils sont peut-être moins présents sur d'autres textes.
Frédéric est à Amiens. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir. Bonsoir France Inter. Ma question, je peux la poser, hein ?
Oui, allez-y.
Merci. C'est une forme d'exemple pour démarrer. Mon député, j'habite à Amiens dans la Somme, mon député est député, conseiller général, conseiller municipal dans un tout petit village et chirurgien dans un grand hôpital. Alors, probablement que c'est un surhomme. En plus, il est en photo dans la presse locale en permanence. Moi, je me demande comment ils font, tous les députés qui fonctionnent un petit peu comme ça, c'est-à-dire avec plusieurs mandats, des professions qui leur prennent beaucoup de temps. Et je me demande si la solution, ça c'est l'Arlésienne ou le serpent de mer, on l'appellera comme on veut, c'est l'application du non-cumul des mandats en ce qui concerne les députés.
Très bonne question, Jean-Luc Warsmann.
Alors, le nombre de mandats est déjà limité par la loi. Certainement qu'il faudra la faire évoluer parce que les intercommunalités, les grosses intercommunalités aujourd'hui ne comptent pas. Deuxièmement, moi je suis contre le mandat unique, je le dis comme je le pense, parce que je pense que pour un député, avoir un mandat local, c'est aussi avoir un ancrage local, c'est aussi avoir une expérience locale. Et moi je pense qu'on...
Mais l'expérience, une fois qu'on l'a, finalement, on peut avoir l'expérience, devenir député et lâcher ses mandats précédents.
Mais vous savez, le risque, c'est de vivre dans une bulle complètement coupé de la réalité. Parce que quand vous êtes à l'Assemblée, c'est un travail fantastique, c'est une mission fantastique. Vous faites des auditions sur des lois, comme je le décrivais. Vous rencontrez les spécialistes, les meilleurs qu'on a en France sur chacun des sujets que vous traitez. Et vous avez vraiment le risque, très vite, de vous couper de la réalité de la société et de la réalité de la vie de tous les jours.
Sauf quand vous êtes sur le terrain, dans votre circonscription.
Et je trouve qu'avoir un être élu dans une circonscription et pas la proportionnelle, ça donne un premier ancrage. Et deuxièmement, je trouve, toute expérience subjective, mais en tout cas, je vous donne la mienne, le fait d'avoir un ancrage local, je trouve que c'est quelque chose de positif. Mais ça ajoute c'est une valeur ajoutée.
Dans plein d'autres parlements européens, le non-cumul est la règle. Donc,
écoutez, moi je trouve que la proximité des députés français est bien supérieure vis-à-vis des citoyens que les députés européens. Et pour moi, c'est un peu un contre-exemple. Parce que quand vous élisez des députés comme au Parlement européen avec une liste, vous donnez le pouvoir de choix des députés d'abord aux appareils politiques qui vont définir la liste des candidats, l'ordre des candidats sur la liste, et donc ceux qui vont être élus. Quand vous élisez dans une circonscription, les électeurs ont la liberté de voter. Et ce qu'on voit de plus en plus dans les circonscriptions, c'est certes il y a des électeurs qui votent par rapport à sensibilité politique, mais aussi des électeurs qui votent en plus ou en moins pour des candidats parce qu'ils estiment qu'ils font leur travail correctement. Et donc ce lien-là entre l'élu et l'électeur, c'est quelque chose qui est pour moi extrêmement important et c'est la meilleure assurance d'avoir des élus en prise avec la réalité. En tout cas, c'est comme ça que je vis le mandat que j'ai l'honneur d'avoir actuellement.
Votre auditeur aussi faisait référence donc à certains députés qui cumulent leur fonction donc de député avec métier.
Une activité professionnelle.
Et donc, parfois, on se demande, mais ce qui n'est pas forcément un mal en soi, puisque député, c'est pas un métier.
Mais, contrairement à ce que disent certains élus, Jean-François Copé, par exemple, dit que la politique est un métier. Alors, on peut ne pas être d'accord avec lui. C'est une charge citoyenne.
Ah, c'est une charge, c'est un mandat, c'est une mission à durée déterminée. Et enfin, moi, je le vis comme ça. Et
quel est votre métier lorsque vous n'êtes pas député, Jean-Luc Warsmann?
Ah, moi, j'étais responsable d'une mutuelle. Je travaillais dans la mutualité. J'étais très heureux dans ma vie professionnelle, d'ailleurs.
Et vous n'êtes plus responsable de la mutuelle?
Ah, ouais, non, je l'ai abandonné parce que j'estime que c'est pas du tout cumulable. Voilà, j'estime quand on a l'honneur d'être député, bon, ben, on essaie de se donner à fond et puis surtout de se dire chaque soir qu'on a donné un peu le meilleur de soi-même. Je crois que c'est le rôle quand on a une mission aussi noble que celle-là.
Benjamin Hogue, j'aimerais qu'on revienne sur les raisons de l'absentéisme. Comment peut-on justifier autant d'absence à l'Assemblée lorsqu'on est un absent chronique?
Alors justement, je ne sais pas quelles sont vraiment les raisons et je ne sais pas si on peut parler d'un absentéisme chronique parce que justement, ce que montre notre étude, c'est que la participation des députés de façon générale a cru. On est passé, alors notamment le mercredi matin, effectivement, du fait de l'application de ce nouvel article du règlement où les députés venaient auparavant en 2007 environ à 25 par séance et sont aujourd'hui en moyenne 50 par réunion du mercredi matin. Et sur l'année, de façon générale, ils participent à une quarantaine de réunions chaque année contre 17 seulement en 2007.
Les amendes sont dissuasives ?
Les amendes sont
dissuasives ?
Les amendes sont clairement dissuasives. Seuls 35% des députés qui étaient sanctionnés l'an passé le sont à nouveau cette année.
Plus de deux fois par mois, on est absent, on sèche des réunions de commission. C'est 350 euros par absence. Donc ça fait quand même de l'argent. Mais il paraît que certains viennent, émargent en arrivant, montrent qu'ils sont là et puis disparaissent aussitôt après. On connaît quelques spécialistes à l'Assemblée, Jean-Luc Warsmann, vous confirmez ?
Oh, en commission des lois, quasiment pas, vraiment. Et deuxième point, vous savez, ça n'a rien de nouveau. Hein. Le principe de l'indemnité, elle date de 58. C'est un texte signé par Gérald de Gaulle, 13 décembre 58, je vais vous le lire. Le règlement de chaque Assemblée détermine les conditions dans lesquelles le montant de l'indemnité de fonction du parlementaire varie en fonction de la participation de ce parlementaire aux travaux de l'Assemblée à laquelle il appartient. Donc c'est un texte de 1958. Et ce qu'a fait l'Assemblée nationale lorsqu'elle a voté cette disposition en 2009, elle a simplement mis en application un texte que Gérald de Gaulle avait voulu quand on a voté la Constitution de la Ve République. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de fond sur la Ve République.
Quels sont les motifs qui sont acceptés pour justifier une absence ?
Alors, ce que révèle notre étude, c'est que les motifs sont particulièrement aléatoires, arbitraires et discrétionnaires. En pratique, ils sont définis clairement dans le règlement. Le bureau de l'Assemblée nationale a prévu des excuses pour certains postes importants de l'Assemblée, comme le bureau ou les députés qui sont situés hors de la métropole, mais également pour maladie, pour vos missions parlementaires, pour missions confiées par le gouvernement, mais étrangement, par exemple, pas pour missions confiées par l'Élysée. Or, l'an dernier, deux députés qui étaient en mission pour l'Élysée, David Douillet et Yves Jégo, ont tous deux été sanctionnés, sauf que suite à la publication de notre étude, David Douillet a révélé que lui, sa commission l'avait finalement excusé, alors que Yves Jégo avait lui été sanctionné. Et donc on révèle qu'il y a une véritable, une application complètement discrétionnaire de ces astuces qui crée une certaine inégalité entre députés.
Jean-Luc Warsmann n'a pas l'air d'être d'accord.
Oh, c'était juste pour faire une réaction. Dans la Constitution, il n'est pas prévu une mission de député auprès du président de la République. Donc ce qui doit se faire juridiquement quand le président de la République demande une mission à un député, le président de la République doit demander au Premier ministre de signer un décret pour le placer en mission auprès du gouvernement. Alors ça n'avait pas été peut-être fait dans ce cas-là. Je pense que c'est une erreur, ça aurait dû être fait. En tout cas, je peux vous dire, quand c'est la commission des lois et quand j'ai des collègues concernés, j'essaie d'y veiller que le Premier ministre prenne bien le décret. C'est comme ça que ça doit être fait.
Un autre exemple très intéressant cette année, on a eu un député nous a communiqué une lettre du président Accoyer qui l'excusait pour participation à la campagne électorale des cantonales, ce qui ne semble pas relever d'une activité parlementaire. Et qui est donc très surprenant. Donc,
Est-ce qu'on peut excuser Arnaud Montebourg, par exemple, d'être absent en commission quand il est en pré-campagne, d'une certaine manière, puisqu'il brigue les suffrages des militants et sympathisants de gauche à l'occasion de la primaire
sociale ? Ça ne doit pas être un motif, puisque... quand il est député à l'Assemblée nationale, il est élu de la nation, il n'est pas seulement socialiste.
Vous voyez, Frédéric Dumoulin, des députés qui sont là fréquemment, mais que le grand public ne connaît pas, donc le grand public ignore le nom, le visage. Vous arrivez-vous encore de découvrir des députés absolument inconnus ?
En fait, c'est-à-dire les gens qui suivent un petit peu la télévision, etc., et ça se limite pour eux souvent aux quelques, disons, 70-80 députés sur 577 qui viennent dans ce qu'on appelle la salle des quatre colonnes. C'est un petit peu le lieu de rencontre entre les députés et la presse. Donc, mais il y a tous les autres, hein, et ceux qui sont beaucoup plus discrets et qu'on est amené à fréquenter peu à peu, avec en étant présent sur place et dans les débats.
Et beaucoup qui sont très, très actifs à l'Assemblée, ouais, et qui n'ont absolument aucune visibilité médiatique.
Et que personne ne connaît. J'en ai découvert encore aujourd'hui en photo, et j'ai découvert son nom et sa photo. Je ne le connaissais pas.
Ils ne sont pas connus en dehors de leur circonscription, en fait.
C'est ça, mais ils sont connus visiblement dans leur circonscription, puisqu'ils sont élus et parfois même réélus. Nous prenons la question de Christophe, il est à Lyon. Bonsoir Christophe.
Bonsoir monsieur. Alors la question est la suivante. Est-ce qu'il ne faudrait pas rétablir deux sessions parlementaires, une de printemps et une d'automne, parce que j'ai l'impression que les députés sont surchargés et qu'ils n'ont pas le temps de respirer un peu. Ou alors faire une session par exemple de janvier à fin juin, mais qui ait lieu une semaine sur deux. Et même en automne, une semaine sur deux, parce que j'ai l'impression que les députés et les sénateurs sont surchargés. Et c'est pour ça qu'on clame contre l'absentéisme parlementaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu alléger leur travail et même les lois? Faire des lois qui soient utiles et pas faire des lois de circonstances.
Jean-Luc Warsmann, il y a plusieurs choses dans la question là.
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut savoir que le calendrier parlementaire est très marqué par le budget. En fin d'année, on va arriver à l'automne, octobre-novembre, il va y avoir deux débats très importants, comme chaque année. C'est d'abord le budget de la Sécurité sociale, puis le budget de la France. Ça bloque pendant plusieurs semaines l'Assemblée, et on peut difficilement aller plus vite parce qu'on regarde ministère par ministère, audition, débat sur les moyens budgétaires de chaque ministère et vote. En dehors de cette période-là, le rythme, ce sont des phases de 4 semaines. Durant 2 semaines, nous débattons de projets de loi d'initiative du gouvernement. Ensuite, une semaine, projet de loi, proposition de loi d'initiative des députés. Et une semaine de contrôle. Donc pour aller dans le sens de votre auditeur, nous essayons de développer le temps où nous ne votons plus de nouvelles lois, mais nous passons notre temps à contrôler la manière dont l'argent public est dépensé et contrôler la manière dont les lois sont votées. Donc je crois que l'avenir est plutôt dans cette direction-là. Je ne peux pas m'empêcher de penser que le pays se porterait mieux en ayant moins de textes législatifs et des textes moins touffus. Donc évidemment.
Mais il faut rester sur une session, pas sur deux.
Je pense que ça serait difficile de revenir en effet à deux sessions, oui, tout à fait.
Frédéric Dumoulin.
Oui, c'est surtout, et puis il faut aussi poser le problème des sessions extraordinaires, parce que là, le monsieur votre auditeur disait qu'il y avait trop.
Quand il n'y a pas une réunion du
Congrès. La session extraordinaire, maintenant, elle n'a plus d'extraordinaire que le nom, puisque tous les mois de juillet, maintenant, il y a des sessions. Le Parlement est convoqué en session extraordinaire. Et là, il y a parfois même d'ailleurs en juillet et en septembre. Donc.
Mais voyez, soyons concrets, on est mobilisé là le 6 septembre pour venir voter, c'est la loi suite aux problèmes financiers qu'il y a au niveau européen. Objectivement, personne ne peut faire à leur proche, au président de la République, de signer une session ordinaire sur des problèmes aussi importants. Donc, et il faut aussi se représenter que la loi, ce sont les règles de fonctionnement du pays, ou bien les règles dont on dépense l'argent, ou les grandes décisions, et c'est légitime quand il y a des difficultés que le Parlement travaille et en soit saisi.
Justement, Christophe parlait du poids du travail parlementaire, notamment du poids des lois. On l'a évoqué au début de cette émission. Beaucoup de lois, la France passe pour être un pays qui adore légiférer, visiblement. Enfin, qui adore ou qui déteste ça, mais en tout cas, qui le fait. Le poids des lois en France est absolument énorme. On continue pourtant à amender, on continue à remettre des lois sur la table. Est-ce qu'un jour, il ne faudra pas se calmer un peu de ce côté-là? Est-ce qu'on ne devrait pas fermer le Parlement pendant un an? Je dis n'importe quoi, mais le temps de faire un gros toilettage. Alors, il y a des lois obsolètes, il y en a qui sont jamais appliquées, par exemple.
Alors, deux points pour vous répondre. Premier point, on a commencé ce travail et on vote une fois par an une loi de simplification. Depuis 2007, on a supprimé 150 lois. Donc, je vous disais, on en vote 50 par an, nouvelles, on en a supprimé 150. Ça n'est qu'un début. Mais le toilettage a commencé.
Continue
et donc,
combat,
on commence à avoir le réflexe de supprimer un certain nombre de textes qui sont tombés en désuétude.
Frédéric Dumoulin, est-ce que vous avez entendu quelquefois des propositions faites par des députés, je ne parle pas des projets de loi, mais un peu fantaisistes, quelquefois des choses qui vous ont étonné? Vous avez été surpris en vous disant, mais franchement, est-ce que ça a quelque chose à faire à l'Assemblée et ça
non,
va encore être une perte de temps?
Fantaisiste, je ne me permettrai pas de dire fantaisiste, mais disons que parfois, c'est vrai que vous parliez du journal de 20h, etc. C'est vrai que, par exemple, s'il y a une agression d'un enfant par un chien, on peut être sûr qu'on va y avoir 2-3 propositions de loi pour dire qu'il faut à nouveau durcir la loi sur les chiens dangereux.
Les paroles dans une chanson de rap.
C'est pareil pour les manèges, il peut y avoir des lois sur les manèges, etc. Donc, il y a parfois des propositions de loi qui sont très liées à l'actualité du jour ou aux faits divers.
Et est-ce que ça n'est pas très démagogique?
Ça peut être considéré comme tel, oui.
Jean-Luc Warsmann.
Alors, pour essayer de lutter contre ces dérives, on a obligé désormais le gouvernement, et tout gouvernement à l'avenir, lorsqu'il propose un nouveau projet de loi, de déposer à l'Assemblée ce qu'on appelle une étude d'impact. Ce sont des feuillets bleus, et si des auditeurs sont intéressés, quand vous avez un projet de loi déposé par le gouvernement, est annexé l'étude d'impact. Qu'est-ce que c'est l'étude d'impact ?
C'est fait, ça, véritablement ?
C'est fait. Mais ça a
ça
deux
fonctionne.
Ans. Ça fonctionne. Qu'est-ce qu'une étude d'impact ? Le gouvernement doit nous dire pourquoi je propose une nouvelle loi. Il doit nous dire quels sont ses objectifs et pourquoi les objectifs qu'il a ne peuvent pas être atteints par des autres moyens qu'une nouvelle loi. Un gouvernement qui veut améliorer le fonctionnement des ascenseurs, il n'est pas obligé de faire voter une loi. Il peut faire des simples décrets, il peut faire une politique, il peut faire la communication, il peut faire des incitations, il peut faire une multitude de choses sans déranger le législateur et sans faire épaissir les codes en matière législative. Donc ensuite, il doit nous expliquer ce qui se passe dans les autres pays étrangers. Et puis surtout, il doit nous expliquer combien ça va coûter. Parce que le problème, ça n'est pas de voter une loi, c'est après d'avoir le nombre de fonctionnaires pour l'appliquer, d'avoir les effectifs, les bras, d'avoir les moyens. Donc tout ça doit être évalué. Et le changement a commencé, on n'est pas au bout, mais ça s'améliore. Et surtout, ça a une conséquence, c'est que lorsqu'on débat maintenant d'un texte, l'opposition ne conteste plus seulement le fondement du texte, mais elle se sert des évaluations du gouvernement en disant, par exemple, vous avez prévu qu'il faut tant de fonctionnaires, ben votre calcul est fantaisiste, moi je vous démontre qu'il en faut plus, où allez-vous les chercher, etc. Et ça, je trouve que c'est un énorme gain parce que ça amène des débats beaucoup plus réalistes, beaucoup plus pragmatiques. Donc la France évolue dans cette direction-là et ça va dans le bon sens.
C'est très bien pour les projets de loi, mais ça ne concerne pas encore les propositions de loi. Enfin, y a pas
absolument, ça n'est pas obligatoire pour les propositions de loi, mais c'est obligatoire, c'est quand même une grosse moitié, les deux tiers
oui,
du nouveau texte.
Et comment expliquez-vous, Jean-Luc Warsmann, qu'on vote des lois et que les décrets d'application tardent à venir ou ne viennent pas ?
Mais parce que le gouvernement doit mettre de l'ordre en son sein pour que le travail soit bien organisé. Parce que lorsque vous avez une loi qui est votée, généralement, vous avez toujours un ministre qui est venu la défendre à l'Assemblée. Ce ministre, il est motivé. Il a passé des dizaines d'heures, le jour, la nuit, à défendre son texte. Et lui, va veiller à ce que les textes sortent. Alors, quels sont les textes qui mettent, les décrets qui mettent le plus de temps? C'est souvent quand il faut mettre plusieurs ministres d'accord. Le ministre de la Justice est venu défendre un texte, mais il ne peut pas signer tout seul le décret. Il faut que le ministre de l'Agriculture co-signe, il faut que le ministre du Budget co-signe. Et là, c'est plus long. Et si le Premier ministre ne tape pas sur la table en disant « je provoque une réunion interministérielle, je veux tous les ministères autour d'une table et je veux que la décision soit prise dans tel délai », eh bien, ça met beaucoup de temps. Et puis, il y a un autre phénomène qu'on observe, c'est les mutations. Quand vous avez un ministre qui est renvoyé, ben son successeur, il n'a pas défendu le texte, il connaît beaucoup moins bien, il est moins motivé et il n'a pas l'influx. Donc c'est assez net quand on étudie sur plusieurs années. Les lois qui dérapent souvent, ben ce sont les lois parce que le ministre qui les a défendues, ben il n'est plus là. Et son successeur, parfois, ben il ne fait pas le travail aussi correctement qu'il aurait dû le faire.
J'ai sous les yeux une question d'un auditeur qui n'a pas souhaité intervenir à l'antenne, donc je vais lire sa question. Je l'attendais, cette question, et vous l'attendiez peut-être aussi. Combien gagne un député et un député cumulable? Avec entre parenthèses prime non imposable comprise pour les deux questions. Donc combien déjà gagne un député et vous allez nous dire ce que ce député fait de cet argent. Vous cherchez votre bulletin de salaire ?
Non, je cherche le texte exact. Alors l'indemnité d'un député, c'est très exactement la moyenne du traitement entre le traitement le plus bas et le plus haut d'un fonctionnaire classé hors échelle, un fonctionnaire d'État. Donc c'est exactement 5246,81 euros net par mois. Alors, à cela, 5284 euros net par mois. Si le député a des autres mandats, les indemnités qu'il peut avoir de ces autres mandats sont cumulées à 50% de cette somme. C'est-à-dire que le total, s'il est député maire d'une grande ville et qu'en théorie, il devrait avoir 4000 euros par mois, eh bien, les 4000 sont réduits à 2600 et 50%. À ça, vous me disiez, ça, il y a des impôts, c'est fiscalisé. Mais vous me disiez, qu'a-t-il d'autre ? Il a ce qu'on appelle une indemnité représentative des frais de mandat qui lui sert à payer quoi ? À payer sa permanence, à payer tous les frais de fonctionnement, toute l'activité de parlementaire qu'il a.
L'attaché parlementaire ?
À l'attaché parlementaire, il y a une enveloppe où l'Assemblée nationale paye grâce à cette enveloppe l'attaché parlementaire. Et si le député,
en plus de l'indemnité.
En plus de l'indemnité. Mmh. Et si le député a plus d'attachés parlementaires, eh bien, au-delà de cette enveloppe, il sert de son indemnité représentative de frais de mandat pour payer. Pour vous dire les choses très directement, là où il y a une inégalité, c'est là qu'est l'inégalité des gros cumulards, comme on dit entre guillemets. C'est que quand vous avez le maire d'une grande ville ou un président de département ou de région, eh bien, parfois, c'est la secrétaire du président du Conseil général qui répond au courrier du député. Et le député, il n'a pas besoin autant d'une équipe. Quand vous êtes maire d'une commune de 500 ou 2000 habitants, ben ce n'est pas la secrétaire de mairie qui va répondre. Le député va se payer ses propres locaux ou sa permanence, il va payer ses assistants, il va payer ses secrétaires. Donc c'est vrai qu'il y a des différences à ce niveau-là dans les moyens de travailler.
Est-ce qu'en l'état actuel des choses, quand on est député et seulement député, on gagne correctement, normalement et justement sa vie?
Alors, je ne sais pas si on gagne correctement justement sa vie, puis c'est une question difficile, il y a tant de nos concitoyens qui ont essayé des difficultés, mais en tout cas, on ne s'enrichit pas, ça c'est sûr.
Mais sur le cumul, il y a un mécanisme très intéressant qui existe depuis longtemps, qui est ce principe d'écrêtement. C'est-à-dire que si un parlementaire ou un élu est à plusieurs mandats, il va effectivement avoir un montant maximum au-dessus duquel il ne pourra pas toucher de plus d'indemnités. Et le reste de ces indemnités, il est possible pour lui de le redistribuer aux élus de sa région.
Non, il est possible pour la collectivité.
Pour la collectivité, effectivement. Mais ce qui crée une forme de caporalisme et qui pourrait effectivement... avoir quelques soucis éthiques. Mais pour le reste, sur ce qui concerne le cumul, on a regardé un petit peu les données et on n'a pas observé de corrélation existante. On peut citer des députés qui sont très cumulards et très actifs à l'Assemblée nationale et inversement des députés qui n'ont aucun seul mandat mais qui pour autant ne participent pas aux travaux de l'Assemblée.
Y a-t-il une caisse noire à l'Assemblée,
Jean-Yves? Non, il n'y a pas de caisse noire à l'Assemblée, heureusement.
Pas d'argent à l'Assemblée. Vous qui êtes journaliste, donc observateur, Frédéric Dumoulin, de la vie parlementaire et de l'Assemblée nationale, donc presque 24 heures sur 24, puisque, oui, comme vous le disiez tout à l'heure, n'exagérons pas, mais vous êtes plusieurs, donc vous pouvez vous répartir le travail. Donc vous travaillez le jour, mais aussi des séances de nuit. Nous-mêmes, ici, nous voyons les journalistes du service politique de France Inter quelquefois finir leur nuit sur la moquette de la rédaction, parce que la nuit a été longue à l'Assemblée, parfois d'ailleurs dans une Assemblée clairsemée. C'est comme ça que passent des lois qui, normalement, n'aurait pas dû être voté, ou plutôt, c'est dans le sens inverse. Ce sont plutôt les lois rejetées parce que c'est arrivé avec la loi Hadopi en 2009,
oui.
Non,
il y a quelques couacs, oui.
Il y a quelques couacs. Est-ce que vous estimez, en tant que citoyen français, que cette institution-là fonctionne bien?
Moi, je trouve que globalement, oui, elle fonctionne bien. Bon, il y a des choses qui peuvent choquer. Moi, c'est vrai qu'au tout début, quand j'étais à l'Assemblée nationale, je trouvais ça quand même curieux que sur des textes très important, il y ait relativement peu de députés. Alors que, par exemple, on pouvait assister au moment du budget, de l'examen du budget des anciens combattants, là, l'hémicycle était beaucoup plus garni. Bon, bref, on peut en penser ce qu'on veut, mais par exemple, là, sur la récente réforme fiscale qui concerne quand même tous les Français, les débats se sont terminés vraiment avec quelques spécialistes de chaque camp. Très tard dans la nuit, c'est vrai. Mais alors que, par exemple, il y a certains budgets, donc, comme je vous disais, les anciens combattants, où là, les députés sont très, très, très présents.
Et aux Français qui disent tous pourris, vous, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre?
Non, je pense. C'est, de toute façon, ils ont le bulletin de vote. C'est ça le moyen de sanctionner les élus s'ils n'en sont pas contents. C'est leur bulletin de vote.
Le spectacle de l'Assemblée nationale lors des questions d'actualité, quelquefois, peut choquer parce qu'on voit qu'il y a une sorte de charivari.
C'est du théâtre.
C'est du théâtre. Est-ce que vous en avez parlé déjà avec les députés en leur disant que ça pouvait avoir un impact négatif sur l'opinion?
Je sais pas, je peux pas mesurer en fait l'impact que ça peut avoir sur l'opinion, mais en même temps, je pense que les Français sont contrairement à ce qu'on peut croire, en fait, les Français suivent énormément les questions d'actualité.
Oui. Et comme vous dites, c'est un petit peu comme au théâtre, mais ça les empêche pas de trouver quelquefois que le comportement de certains est choquant.
Oui, c'est vrai que le président de l'Assemblée nous dit régulièrement qu'il reçoit une quantité astronomique de lettres, de protestations, en fait, de personnes surtout âgées notamment, qui disent que c'est pas normal, que les députés se comportent comme des écoliers. Et voilà, mais bon.
Ce sont les caméras qui les rendent comme ça, Jean-Luc Warsmann, vos collègues?
Vous savez, il y a des caméras dans tous les sens dans l'hémicycle, donc vous ne savez jamais si vous êtes filmé ou pas. Donc il ne faut pas croire.
On peut l'espérer aussi, non? Vous avez certains de vos collègues qui doivent espérer être filmés, même
Monsieur Emmanuel, il ne l'espérait pas forcément. Récemment.
Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, je dois dire que quand j'ai des collègues qui lisent, par exemple, un journal dans l'hémicycle, ça m'arrive de leur dire, parce qu'il n'y a pas un signal de plus grand désintérêt pour un député qui parle que de l'écouter en lisant sur le journal. Parce que vraiment, c'est... Voilà.
On peut leur pardonner un petit somme, parce que quelquefois, ils sont fatigués.
C'est souvent la caricature, ça n'arrive pas souvent, il n'y a pas grand monde.
Ça fait sourire, mais c'est plutôt le charivari qui, quelquefois, est difficile à tolérer. Benjamin Hogg, vous vouliez dire encore quelque chose, et puis vous allez rappeler aussi l'adresse de votre site.
Oui, donc un dernier point, justement, sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Sur www.nosdéputés.fr, on peut voir, avec toutes les données récupérées au journal officiel et à l'Assemblée nationale, qu'elle travaille effectivement, qu'elle est fonctionnelle, elle est elle est efficace. Pour autant, nous, on a trois points en particulier qu'on trouve des dysfonctionnements de l'Assemblée nationale, notamment donc la non-transparence autour de ces sanctions financières qui sont en application depuis 2 ans, mais également le fait qu'il y a une autre sanction financière qui existe au sein du règlement, l'article 159 sur les scrutins publics, qui lui existe depuis des décennies et n'a jamais été appliqué, et qui, des vœux même de M. Bernard Accoyer, auditionné par la commission des lois de M. Warsmann, justement, au moment de l'adoption de cet article, avait dit que c'était inapplicable.
Alors c'est le site, dites-le,
www.nosdéputés.fr.
Oui, et puis on peut toujours aussi interdire à un élu de se représenter s'il est trop souvent absent à l'Assemblée nationale.
Mais ça, vous savez, la démocratie, tout ça se fait sous le contrôle des citoyens, et c'est quand même le meilleur système.
Cette émission est terminée, merci messieurs, et je dis à lundi aux auditeurs. Nous parlerons de médicaments et de ses effets indésirables.